Bienvenue sur le site de l'église protestante de Bligny. Pour ce temps que nous allons passer ensemble pour nous remémorer le jour de la mort de Jésus sur la croix, nous avons choisi un événement bien particulier qui s'est déroulé juste au moment où, baissant la tête, il rendit l'âme. Depuis le jour où il a mis le pied sur la terre, Jésus sait la fin tragique qui l'attend. Non pas qu'il en est surpris, il connaît les hommes. Son Père en est le Créateur. Mais depuis ce merveilleux jardin d'Éden, il s'en est passé du temps. Depuis cette désobéissance de l'homme et de la femme, rien n'a plus été comme avant. Les appels du Père se sont succédés, parfois dans la douceur, parfois dans la colère, parfois dans les cataclysmes, parfois dans la parole écrite, parfois dans la voix des humains consacrés, parfois dans la bouche d'un enfant. Aujourd'hui, c'est l'acte ultime. Je n'oserais pas parler d'apothéose, tant la scène est horrible. Pourtant, nous avions été prévenus. L'évangile de Luc, chapitre 18, versets 31-34, voilà ce qui nous est dit. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem. » Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de bâton, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Mais il ne comprit rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont il ne saisissait pas le sens. Personne n'y a rien compris. Il y a quelques jours, la foule criait lors de son entrée à Jérusalem, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Cette foule changera de ton et de cri. Crucifie, crucifie. Mais avant de monter au calvaire avec Jésus, revenons un rien en arrière et prenons le temps de l'écouter et de prier avec lui. Entrons dans ce jardin de Gethsémané. Évangile de Matthieu, chapitre 26, de 36 à 41. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas que ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis et dit, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Prions. Ô Jésus, nous te demandons pardon. Pardon de n'avoir pas compris que ta mission était de nous sauver. Et pour cela, tu es venu jusqu'à nous. Pardon parce que nous nous sommes endormis alors que tu luttais pour nous. Pardon d'être resté passif devant l'ampleur de la tâche que tu nous avais confiée d'être tes disciples. Aide-nous à veiller et prier, que le voile qui est devant nos yeux se déchire pour que nous puissions voir le Père et lui rendre toute la gloire qui lui est due, en ton nom. Amen.
sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha. Les soldats essaient de frayer une voie, mais la foule se presse pour voir celui qui mourra sur la croix. Il doit subir les insultes, les souffrances de son cœur, une couronne d'épines sur son front. Il affronte à chaque pas la haine de ceux qui veulent sa mort. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha, comme un agneau, Jésus
Bienvenue à tous. Permettez-moi d'introduire cette réflexion de ce vendredi saint 2020 par ces trois versets extraits de Marc chapitre 15 versets 37 à 39. Je cite « Mais Jésus ayant poussé un grand cri expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément cet homme était fils de Dieu ». Fin de citation. Au moment où Jésus mourut, le voile du temple se déchira de haut en bas. Ce phénomène terrorisa les Juifs incrédules. C'était pour eux le signe de l'anéantissement de tout leur système religieux et de leur nation. À l'époque de Jésus, le temple de Jérusalem était le centre de la vie religieuse juive. Des animaux y étaient offerts en sacrifice et les cultes y étaient célébrés conformément à la loi de Moïse. Le temple, tout comme le tabernacle au désert, était divisé en trois parties. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis était accessible à tous, même aux non-juifs. Le lieu saint n'était accessible qu'aux prêtres lévites. Et la troisième partie, le lieu très saint, était réservé à Dieu. Celui-ci n'était accessible que par le souverain sacrificateur, et ce, une seule fois par an, pour entrer dans la présence de Dieu au nom de toute la nation d'Israël et faire l'expiation de leurs péchés selon Lévitique 16. Cette partie très sainte était fermée, cachée par un voile. Ce fameux voile qui se déchira lorsque Jésus expira. Le lieu très saint, c'est-à-dire la demeure de Dieu sur terre, était fermé à l'homme à cause de son péché. L'homme est séparé de Dieu, et pas uniquement d'une manière symbolique, par un voile, car nous lisons dans Ésaïe 59, versets 1 à 2, je cite, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Cette citation. Autrement dit, dans l'alliance de l'Ancien Testament, les gens du peuple n'avaient aucun accès direct à Dieu. Ils devaient passer par un intermédiaire, à savoir le grand prêtre sacrificateur qui refaisait sans cesse le même sacrifice. Mais, revenons à ce fameux voile déchiré de haut en bas, qui est incontestablement un fait historique. Lorsque nous pensons à un voile, nous voyons tout de suite un tissu vaporeux et léger qui bouge avec le vent. Mais celui du temple était fabriqué d'un matériau très opaque et surtout très résistant. En fait, à quoi ressemblait-il? La hauteur du temple de Salomon était de 30 coudées, environ 15 mètres. Mais, d'après les écrits de Flavius Joseph, historien juif du 1er siècle, Hérode l'avait rehaussé à 40 coudées, ce qui faisait environ 20 mètres de haut. Joseph précise que le voile avait, tenez-vous bien, 12 centimètres d'épaisseur et que la force de traction combinée de plusieurs chevaux attachés aux extrémités n'aurait pas suffi à le déchirer. Le livre de l'Exode nous enseigne que ce voile épais était fait de tissu bleu, pourpre et cramoisi. La couleur pourpre était obtenue à partir d'un escargot et le cramoisi d'un rouge profond était obtenu d'un insecte, la cochenille, le tout tissé dans un lin retors. Le lin dans la Bible est lié à la résistance et à la force. Le lin fin retors est très solide. Chaque fil étant fait de plusieurs fils de lin tordus ensemble. C'était d'une solidité à toute épreuve. La taille et l'épaisseur du voile donnent une dimension encore plus grande aux événements survenus au moment de la mort de Jésus sur la croix. Je cite, « Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. » Depuis le haut jusqu'en bas. Qui aurait été assez fort pour déchirer jusqu'en bas cette tenture épaisse de 12 cm et à partir d'une hauteur de 20 mètres, avec le poids de plusieurs centaines de kilos que l'on peut imaginer? La main de l'homme n'y était pour rien. c'est Dieu lui-même qui en est l'auteur. Imaginez la terreur des Juifs présents dans le temple, avec en plus le tremblement de terre et le ciel qui s'obscurcit. Personnellement, je n'aurais pas voulu assister à cet événement épouvantable. Maintenant, que penser de tout cela? Que signifie ce voile déchiré pour nous aujourd'hui? Mais c'est assez simple à comprendre. En déchirant cette séparation, l'Éternel lève tout obstacle entre les hommes et le Saint des Saints. Ce dernier est désormais ouvert à tous et à toutes, aux Juifs comme aux autres nations, à vous comme à moi. Le fait que le voile s'est déchiré au moment de la mort de Jésus est LE signe spectaculaire que le sacrifice de Jésus et son sang versé était le dernier sacrifice que Dieu accepterait. Le sang qui a coulé à la croix était suffisant pour nous sauver de la perdition éternelle. Le sang des boucs et des taureaux n'était plus nécessaire. Jésus a pris sur lui tous les sacrifices et par là a payé notre dette envers l'Éternel pour toutes nos fautes. Quand le voile s'est déchiré, l'Éternel Dieu a quitté cet endroit pour ne jamais demeurer dans un temple fait de mains de l'homme. Dans Actes 17, 24, je cite « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de mains d'hommes. » Cette citation. Dieu n'avait plus besoin de maisons terrestres et encore moins d'un système religieux, à telle enseigne que le temple et Jérusalem ont été livrés à la désolation, détruits par les Romains en l'an 70. Comme Jésus l'avait prédit dans Luc 13, versets 34 à 35, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Fin de citation. Tant que le temple existait, celui-ci représentait l'ancienne alliance. Mais Jésus ouvre la porte d'une nouvelle alliance avec Dieu en nous donnant un accès direct à Dieu. Je lis dans Hébreux 9, versets 11 à 12, je cite « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Fin de citation. Nous pouvons conclure que le voile symbolisait la séparation de l'homme avec son Dieu. Christ, par sa chair meurtrie, l'a déchiré pour que nous puissions avoir accès au Père. Par Jésus lui-même, qui dit dans Jean chapitre 14, verset 6, je cite, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. » Ce verset nous indique que Jésus est le seul médiateur et que personne ne rejoindra le Père s'il ne passe pas par Jésus-Christ, son Fils. Le voile n'avait plus de raison d'exister. Le souverain sacrificateur n'est plus nécessaire. Jésus, en déchirant le voile, inaugure l'accès direct à Dieu. Car maintenant, Dieu est notre souverain sacrificateur. Et en tant que croyant en son œuvre terminée à la croix, nous participons à son sacerdoce plus excellent. Par lui, nous pouvons désormais entrer dans le Saint des Saints. Je lis dans Hébreux 10, versets 19 à 22, je cite, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une nouvelle conscience et le corps lavé d'une eau pure. Jusque-là, la parole. Nous voyons l'image du corps de Jésus brisé pour nous, au moment même où le voile se déchirait pour nous, et par sa mort, les fidèles ont maintenant, par Jésus, un libre accès à Dieu. En conclusion, le voile du temple était un rappel constant que le péché sépare l'humanité de la présence de Dieu. Et cela est encore valable aujourd'hui, car l'Éternel a le péché en horreur. Le fait qu'un sacrifice était offert tous les ans pour le péché et que d'innombrables sacrifices étaient répétés quotidiennement montre clairement que les sacrifices d'animaux étaient insuffisants pour expier le péché. Jésus-Christ, par sa mort, a renversé la barrière entre Dieu et l'homme, si bien que maintenant nous pouvons nous approcher de lui avec confiance, assurance et hardiesse. Je lis dans Hébreux 4, versets 14 à 16, je cite, « Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Fin de citation. Le lien entre la crucifixion de Jésus et le voile qui se déchire nous montre que Jésus était le dernier et le vrai sacrifice qui enlève le péché du monde. La présence de Dieu n'est plus réservée à une élite spirituelle. Nous y avons maintenant tous accès par Jésus-Christ. L'offrande n'est plus nécessaire. Le sang ne doit plus jamais couler. Je lis dans Romains 6, 10, je cite, « Car Jésus est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. » Je répète, qu'il est mort une fois pour toutes. C'est confirmé dans Hébreux 10, versets 18 à 23. Or, là, il y a pardon des péchés, et il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Des cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Fin de citation. Pour terminer, ce passage nous montre que Jésus est notre seul avocat, notre unique médiateur, le seul intermédiaire avec Dieu, son Père, en qui nous pouvons placer toute notre confiance. De plus, comme il s'est volontairement offert lui-même comme sacrifice pour nos péchés, il est celui à qui nous devons nous confier directement pour recevoir son pardon, sa miséricorde et sa compassion. Que le Seigneur vous bénisse tous dans ces moments de confinement difficiles. Amen.
Merci Henri pour ce rappel qu'après la mort de Jésus, nous avons un libre accès à Dieu. Pour clôturer ce moment passé ensemble, j'aimerais attirer votre attention sur un autre fait qui s'est passé au même moment où Jésus rendit l'âme. Il y a du monde sur la scène de crime, face à la croix. Mais les évangiles nous rapportent qu'un homme, un des ennemis, mais aussi un des bourreaux, prononcera une parole qui doit nous interpeller. Jésus ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Au-delà d'un condamné, au-delà de l'homme souffrant, et face à cet acte d'obéissance de Jésus, pouvons-nous nous aussi prononcer avec le centenier « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Que devant ce Jésus mourant, nous puissions éclater en louange, parce que nous savons que ce qu'il dit, il le fera. 3 jours après, il ressuscitera. Je vous donne donc rendez-vous dimanche pour vivre notre culte de Pâques.
Jésus a dit, il n'y a pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Le commandement que Jésus nous a donné, c'est le suivant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé.
Que le Seigneur nous garde et apaise nos cœurs, même si nos corps sont confinés. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.